Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée dans le Réveil Culturel, émission que vous pouvez écouter tôt le matin à la radio ou quand vous voulez en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement gratuit au podcast. Aujourd'hui, je reçois Florent Groisel et Youn Lokar, auteurs d'un projet ambitieux, une trilogie sur la Révolution française. Liberté, le premier tome de cette série intitulée Révolution, est sorti, édité par Actes Sud dans la collection L'An 2. Et il ressuscite les événements de 1789 dans une fresque qui n'oublie pas de représenter le peuple, des individus, des destins personnels et des petites histoires qui vont donner du sens à la grande histoire que nous connaissons. Le Réveil culturel est une émission coordonnée par Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard avec ce matin à la prise de son Stéphane Desmonts.
Le Réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Révolution, donc, c'est le titre de cette trilogie. Le premier tome vient de sortir, Liberté. Bonjour, merci d'être venu, Florent Groisel et Youn Lokar. D'abord, comment est née cette idée de raconter la Révolution? On va voir que vous la racontez à votre manière, c'est-à-dire en donnant à voir comment cet événement historique va être vécu par les gens du peuple, ça je l'ai dit, mais pas seulement, aussi par des députés, par d'autres classes dirigeantes de la France de l'époque. Mais d'abord, vous êtes tous les deux jeunes, qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir sur cet épisode crucial de l'histoire française?
Ben nous, on a une passion, en tout cas un intérêt pour l'histoire sociale,
Youn Lokar,
depuis longtemps. Et on a découvert très tard un intérêt pour la Révolution française. Et je pense que l'idée de faire une BD là-dessus, c'était justement, ça nous a interrogé d'être passé à côté aussi longtemps, quoi. Donc on a eu envie de revivifier un peu la période, lui redonner du souffle et donner envie de la lire et de l'étudier et d'essayer de la comprendre autrement que comme une image d'Épinal, quoi, comme on la voit la plupart du temps.
Parce Florent que cette grande histoire dont vous parliez en préambule, c'est vrai que la plupart d'entre nous la connaissent, mais je pense que un peu comme tout le monde, nous on l'a appris il y a longtemps, on en retient quelques grandes dates, quelques personnages, mais quand on s'est mis à se documenter, à lire les historiens, des travaux récents et moins récents, on s'est rendu compte qu'il y avait là une matière vraiment très très intéressante, très riche, beaucoup plus complexe que l'image qu'on en avait tous les deux. Et c'est cette envie aussi de reposer des images, un imaginaire sur cette période-là pour venir un peu battre en brèche ces gros clichés qu'on a sur une période qui est quand même très longue, très compliquée, en même temps excessivement d'actualité peut-être, en tout cas au vu de la production culturelle de ces derniers mois ou années.
Alors vous faites tout à quatre mains, hein, je veux dire, scénario et dessin. D'ailleurs, il y a des ruptures graphiques. On peut sentir qu'il y a deux dessinateurs pour cette histoire. Ça, par exemple, c'est assumé.
C'est totalement assumé, ouais. On voulait tous les deux dessiner.
Florent Groisel, oui.
On n'a pas cherché à trouver un style commun, mais on a quand même une manière de travailler qui fait que notre narration est construite en commun. Finalement, la réalisation des planches intervient vraiment à la toute fin du processus d'écriture et de réalisation des pages. Ce qui fait que, en fait, je pense que ces ruptures graphiques, même si elles existent et si on n'a pas cherché à les masquer, n'entravent pas tellement la lecture.
Youn Lokar ?
Ça vient vraiment d'une simple envie, quoi. On a vraiment essayé de... Une fois qu'on a admis qu'on avait cette envie de trouver comment lui donner forme et tout, mais... On a hésité, par exemple, à avoir recours à des subterfuges un peu scénaristiques pour expliquer qu'il y ait deux dessins différents. Au final, je pense qu'on a assumé ça complètement. Dans le titre Liberté, qui est le titre du premier tome, je pense qu'il y a aussi, pour nous, un espèce de mot d'ordre. On a vraiment travaillé comme ça. On s'est donné une grande liberté sur le format, sur le fait de dessiner tous les deux. Toute la réalisation du bouquin, je pense.
Et l'idée de raconter la Révolution, parce que c'est la Révolution française, mais vue du côté des députés, de l'aristocratie et du peuple oublié de tous, c'est-à-dire d'inventer des personnages de fiction, de nous projeter, nous, lecteurs, dans ces événements-là, c'est-à-dire on sait ce qui va advenir, mais on ne sait pas comment les gens que nous connaissons au début de votre histoire vont réagir à ces événements. Ça a été plutôt réfléchi en amont, scénarisé. C'est-à-dire, je suppose qu'il y a eu toute une partie de documentation où vous êtes allé travailler. Je pense que vous avez eu l'avis des historiens, que vous êtes basé sur des études historiques. Mais à un moment où il fallait raconter une histoire avec des personnages de fiction, comment vous avez fait ?
Ben, on a commencé par, en effet, se documenter sérieusement et longuement. Et puis d'ailleurs, ça a continué tout au long de la réalisation et jusqu'au bout. Et enfin, on n'aura jamais épuisé cette partie-là du travail. Le fait d'inventer des personnages, ouais, ça, après, c'est notre... on invente des histoires, quoi, donc on n'est pas historien, ouais.
On vient avec aussi des envies de caractère qu'on a voulu absolument traiter. Je pense qu'on aurait fait n'importe quelle autre histoire contemporaine ou même un space opéra de science-fiction. On aurait parlé aussi de certains personnages, on aurait essayé de les caser dans cette histoire. Là, on s'est servi de ce décor de la Révolution française, qui est pas simplement un décor dans la bande dessinée, mais qui est aussi un contexte pour caser des caractères qu'on avait envie de, sur lesquels on avait envie d'écrire, et qui nous ont servi aussi à comprendre, enfin peut-être à faire comprendre la Révolution de l'intérieur, et pas simplement en la survolant de grande date en grande date. Quand on lit une chronologie, on comprend pas la Révolution. On peut embrasser sa totalité, mais on comprend pas les raisons profondes qui animent les protagonistes.
Et en plus, on manque complètement de suspense, quoi. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voulait, c'est plonger les gens dans le bain. Et donc...
Non, le suspense est là, parce que ce que je disais, Yune Lecard, on connaît très bien les événements qui ont fait la Révolution française, mais le suspense est situé au niveau des personnages, protagonistes,
ouais.
Comment ils vont réagir, comment ils vont voir les choses, eux qui ne savent pas ce qui va se passer plus tard.
Bah ouais. Et dont nous non plus, puisque si on sait globalement, voilà, on a des grandes dates, des grands destins qu'on connaît bien. Mais nous, en racontant l'histoire de personnages qu'on invente, bah ouais, on met le lecteur dans une position de... Et surtout, en fait, on essaye de montrer tous ces grands événements qu'on croit connaître, ou en tout cas dont on a une représentation assez précise, par les yeux de personnages qui n'en voient qu'un petit bout, peut-être ils étaient pas là.
Forcément.
Ils ont raté la prise de la Bastille, machin truc. Et donc, on voit aussi ces événements avec un prisme qui nous les fait redécouvrir, peut-être, quoi.
Florent Groisel disait, on a choisi des caractères. C'est-à-dire, l'idée, c'était quoi? C'était de représenter toutes les couches de la société française à ce moment précis?
Il y a une envie de se balader à travers toutes les couches, mais quand il parlait de caractères, il voulait dire des caractères qu'on aurait pu mettre en scène dans un space opéra ou autre part, c'est-à-dire des caractères qui sont pas forcément liés à la Révolution française, quoi, qui sont plus de notre intérêt, nous, pour des caractères de gens. Enfin voilà, donc ça, on arrive plus dans notre petite cuisine de choses qu'on a envie de mettre en scène, de raconter. Ça parle pas que de la Révolution française. On a essayé de faire des personnages qui soient pas archétypaux.
C'est-à-dire comment la vie continuait pendant les grands événements et comment cette révolution va finir par changer quand même le destin de vos protagonistes.
Ouais, voilà. Et encore cette révolution qui est en fait plusieurs révolutions, quoi. Donc ça va changer.
Ces personnages, en plus, ils avaient effectivement pas vocation à illustrer à tout prix tel ou tel aspect de l'événement. Ça aurait été trop facile, en fait, de choisir. De construire des personnages en fonction des événements, parce que c'est justement contre ça qu'on essaye d'écrire, contre une vision qui est celle d'une histoire par la fin, une histoire un peu à rebours, quoi, complètement téléologique, dans laquelle, par exemple, on pourrait inventer des personnages parce qu'on sait très bien comment ils vont finir, alors que nous, on a essayé de faire des personnages dont on ne sait rien, a priori, et eux-mêmes ne savent pas, et c'est ça qui va rendre l'histoire... peut-être intéressante pour le lecteur, c'est que les personnages vivent les événements sans savoir comment ils vont finir.
Est-ce que vous vous mettez à la place des personnages ?
Bah ouais. Ouais. On se met nous, et puis on met aussi des gens qu'on connaît. Justement, quand il parlait de caractère, Florent, on prend des personnages aussi qui viennent d'un tout autre cadre, on les plonge là-dedans, on se met assez bien d'accord sur comment ils sont, quoi.
Par exemple, s'il fallait donner des exemples.
Ben, ça peut être des connaissances à nous, des gens qu'on fréquente, qui nous intéressent. Ça peut être des personnalités aussi publiques, ou ça peut être des rockstars. Je sais pas, il y a tellement de... Quand je dis rockstar, c'est parce que la Révolution, c'est un moment où il y a des figures qui émergent comme ça et qui acquièrent une popularité énorme. Donc c'est pas en faisant du rock. Mais au final, ça fait écho à ça, quoi. Comment est-ce qu'il y a des gens qui se mettent à fasciner le public et à être suivis?
Et c'est en fait un peu un mélange de tout ça tout le temps, quoi. On se met nous-mêmes beaucoup dans nos personnages. On pioche à droite à gauche des gens qui nous fascinent un peu et qu'on essaye de représenter.
Je me suis posé la question, est-ce que vous avez été aussi porté par tous les personnages de fiction nés dans la littérature française qui parlent de la Révolution?
Sur la Révolution en particulier, je sais pas, mais il y a vraiment une grande influence, ouais, du roman feuilleton, du roman historique.
J'ai l'impression qu'on n'a pas lu beaucoup de fiction sur la Révolution, de même qu'en fait il y a peu de films, de même qu'il y a quasiment aucune bande dessinée... sur l'événement lui-même, hormis des tentatives justement de faire vraiment des livres très didactiques sur l'enchaînement des événements, on va dire. Mais on s'est tenu quand même assez à l'écart de la fiction.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous, la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Go!
Vos armes, etc.
Etc. Vos armes,
etc. Vos armes, etc. Vos armes, etc.
Entendez-vous dans les camps. Rugir ces féroces soldats, ils viennent ce que l'on envoie, égorger nos fils, nos campagnes, baby.
Vos armes, etc. Vos armes, etc. Vos armes, etc. Vos armes, etc. Vos armes, etc.
Hey! Amour sacré de la patrie. Conduit soutien aux bras vengeurs. Liberté, liberté chérie. Combat avec tes défenseurs. Aux armes!
Aux armes, etc. Aux armes, etc. Aux armes, etc.
Bébé!
Aux armes!
Aux armes!
Etc.
Nous entrerons dans la carrière. Quand nous aînés. Seront plus, nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. Ouais.
Aux armes, etc. Aux armes, etc.
Baby.
Aux armes, etc. Aux armes, etc. Aux armes.
Raconter la Révolution française en passant par la fiction, mais surtout en passant par la bande dessinée. C'est le projet de mes invités ce matin, Florent Groisel et Youn Lokar. Une trilogie avec ce premier tome qui vient de sortir chez Actes Sud, dans la collection L'An 2, Liberté. Alors, raconter la Révolution, c'est tout à la fois dessiner des foules, raconter des destins personnels, des retrouver dans ce cadre historique, restituer le Paris de l'époque, avec d'ailleurs beaucoup de doubles pages, doubles planches pour nous situer où on est. C'est une manière aussi de faire un voyage dans le temps de ce Paris-là.
Ouais, c'est ça, on avait vraiment envie de nous mettre...
Florent Groisel.
Et de mettre les lecteurs dans nos traces à la place de deux dessinateurs qui assistons à l'événement un peu carnet à la main, quoi. C'était vraiment cette volonté d'avoir quelque chose qui s'approche presque du carnet de voyage, comme si on était parti dans le Paris révolutionnaire pour dessiner au coin des rues sans tout comprendre, en saisissant quand même l'essentiel et en ayant même aussi au niveau du dessin cette approche un peu du dessin d'observation, quelque chose d'un peu fragile, quoi, malgré le réalisme.
Et ça, c'est le grand plaisir de la BD, c'est-à-dire
Hugh que Lockhart.
Une fois qu'on a trouvé les bonnes docs et tout ça, on peut tout montrer, quoi. On peut montrer des immenses plans, des rues, des quais, du Palais Royal, et puis passer même 10 pages à se balader dans les jardins du Palais Royal en pleine fête et tout, des trucs qui au cinéma où serait complètement impossible à montrer ou alors coûterait je sais pas combien. Là on est deux et avec nos plumes et nos pinceaux. Enfin là c'est là-dessus c'est vraiment ouais, l'éclate. Enfin c'est pour ça que je pense que la bande dessinée se prête aussi à cette balade dans Paris.
Et c'est aussi l'idée d'inventer des personnages de fiction. S'il fallait parler des protagonistes principaux de ce premier tome qui est sorti, Liberté.
On a une galerie assez large. On voulait faire quelque chose qui soit choral, où on peut entrevoir...
C'est clairement une fresque, ça, on le sent dès le début. Ouais.
Ouais. Et on navigue vraiment, on change régulièrement de personnages et de points de vue sur les événements. Tous nos personnages vont devoir se situer, s'engager d'une manière ou d'une autre, par la force de l'événement. En même temps, on peut embrasser aussi les raisons de pas mal d'entre eux qui sont souvent contradictoires. Mmh. Tout le monde doit se repositionner en permanence. Et il y a un travail qui est extrêmement à la fois intéressant, et je pense pour les gens qui ont vécu la période, qui devait être particulièrement exténuant, quoi, de devoir sans cesse revoir leurs critères, leurs principes, leur position sur telle ou telle chose.
Et on a une sympathie, je pense, pour les certains de nos personnages qui sont pas du tout politisés, quoi, au sens conscient du terme, ni philosophes, et qui en fait là-dedans, les raisons qu'ils ont d'avancer, d'embrasser ou de refuser la révolution sont des raisons très personnelles et très prosaïques, voire romantiques. Enfin voilà, c'est aussi des motivations qu'on pourrait qualifier impures un peu. Par exemple, il y a un personnage qui au début vraiment trouve ridicule toute l'agitation de l'Assemblée nationale et avant ça des États généraux et tout ça, mais qui, par une espèce de révélation, qui tombe en amour d'une fille qu'il a à peine aperçue, embrasse complètement la cause révolutionnaire, et qui finira, qui sait, par devenir peut-être le plus pur des révolutionnaires, au final. Donc c'est toutes les raisons aussi d'entrer ou de sortir du mouvement.
Il y a bien sûr cette prouesse graphique, hein, parce que vous représentez le Paris de l'époque, vous représentez les tenues de l'époque, les personnages, c'est très documenté. Les scènes d'action sont particulièrement réussies, mais à la fin de ce premier tome, on se dit que si jamais c'est tellement réussi, c'est que vous avez trouvé quelque chose de fondamental, à savoir faire parler les gens et qui soit compréhensible aujourd'hui. C'est-à-dire que le parler de l'époque, on suppose qu'il n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui, et pourtant, sans jouer avec ce décalage, vous réussissez à restituer l'époque avec les mots d'aujourd'hui. Comment vous avez travaillé les dialogues? Parce que c'est beaucoup de dialogues, une bande dessinée.
Sur le langage, alors, en fait, on a fait le choix de pas se mettre vraiment, d'essayer de reconstituer un langage de l'époque, parce que ça serait quand même assez indigeste, enfin... Nos personnages sont aussi, on essaye qu'ils soient à la fois qu'on comprenne bien leurs conditions d'existence, les trucs qui les poussent, qui les retiennent, qui sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Donc qu'on comprenne à la fois pourquoi est-ce que il se passe la révolution à ce moment-là, parmi ces gens-là. Et à la fois, on essaye, pour avoir de l'empathie, on essaye de relier les lecteurs à eux. Donc d'un côté, on a modifié un peu leur langage pour qu'à certains moments, peut-être, ils puissent se rapprocher de nous, ils puissent se mettre à notre niveau aussi et nous paraître plus familiers, quoi. Donc c'est tout un jeu entre l'évocation du langage de l'époque, des différents langages de l'époque, puisque comme on se balade entre les couches de la société, c'est très différent, quoi, les manières de s'exprimer. Un jeu entre ça et puis un peu le langage d'aujourd'hui, quoi, c'est-à-dire... un gamin des rues, par exemple, il y a une gamine qu'on montre beaucoup, Marie, qui est un personnage assez important, qui est vraiment du lumpen prolétariat, et qui parle peut-être de manière pas si différente que d'un gamin d'aujourd'hui, quoi, qui serait dans les mêmes conditions. Parce que ça nous paraît plus... ouais, permettre une plus grande empathie, être plus proche, quoi.
Et au-delà du langage, il y a...
Florent Groisel.
Il y a quand même des similitudes de situations. Je pense qu'au moment où on écrit, pour rendre les situations, les événements compréhensibles par les lecteurs d'aujourd'hui, on a toujours en tête des référents auxquels on va faire appel, quoi. Je pense à des trucs qu'on a tous vus à la télévision, la place Tahrir en pleine ébullition.
En Égypte, ouais.
Voilà. Par exemple, c'est le premier exemple qui me vient, mais la place de l'hôtel de ville, pendant les 3-4 jours avant le 14 juillet, on s'est dit qu'il devait y avoir quelque chose qui ressemblait à une capitale en pleine insurrection, avec des gens qui s'organisent pour faire à manger, pour soigner des blessés. Voilà, des espèces de ponts avec des situations qui sont contemporaines. Et sans vouloir forcer le trait à tout prix et rendre la chose trop contemporaine, ça peut aider nous à créer et le lecteur à comprendre peut-être notre perception, en tout cas des événements. Peut-être qu'on est loin en faisant ça de l'histoire historienne, mais en même temps, c'est les clés de la fiction, c'est de faire passer quelque chose au lecteur.
Alors tous les événements historiques sont réels et bien documentés, ça on peut le dire, ce qui ne vous empêche pas, vous, de jouer avec des personnages de fiction et de vous imaginer à la place de tous ces protagonistes emportés par cette fièvre révolutionnaire.
Nous, on a nos personnages, et y compris certains, en fait, on a choisi certains personnages qui ont vraiment existé.
Bien sûr, parce que c'est un subtil mélange des deux.
Et en général, on en a choisi qui sont pas trop connus ou dont la biographie est un peu lacunaire, ce qui fait que...
Ça vous laisse le temps, effectivement, d'imaginer et voilà. De mettre votre... Est-ce qu'on peut dire que vous avez interprété tous les personnages de cette fresque, de ce tome 1, de cette fresque annoncée Révolution ?
Ben, on doit se mettre un peu dans la peau à chaque fois. On doit jouer nos propres personnages. Ça, c'est un peu la manière de créer des personnages en bande dessinée. C'est vrai que on est un peu comme à la fois des metteurs en scène, mais aussi des comédiens dans un certain sens.
Mais au-delà, est-ce que, parce que ça parle aussi de politique et d'idéologie, on parle de révolution et de la révolution française, est-ce que vos convictions, vos questionnements ont alimenté tous les personnages de votre bande dessinée?
Nous, nos convictions, nos engagements, ils sont quelque part là-dedans, quoi, c'est clair. On a essayé d'avoir, je pense qu'on a vraiment un respect, profond de nos personnages, même ceux qui partagent pas nos engagements, parce qu'il y en a aussi, clairement, quoi.
Enfin, Florent Groisel et Youn Le Car, comment vous êtes connus? Comment êtes-vous arrivés à travailler ensemble autour de ce projet Révolution? Je rappelle le titre de cette trilogie annoncée, le premier tome vient de sortir.
Ben, on s'est connus quand on avait 16 ans, 15-16 ans, au lycée, quoi. On était dans le même lycée et on faisait à Lorient, au lycée du Puy-de-Lôme. Et on faisait de la BD déjà et c'est pratiquement comme ça qu'on s'est rapprochés au début, je dirais, quoi. C'est vraiment une amitié de BD.
Et puis à partir de là, on n'a pas arrêté de créer des petites bandes dessinées ensemble, de plus en plus ambitieuses, en fait.
Et autour de l'histoire, toujours, ou pas forcément?
Pas forcément. Disons qu'on... C'est pas un sujet qui nous obsède, mais on s'est rendu compte avec notre précédent livre Éloi, qui parlait aussi d'un sujet historique, que c'était un très
Quel
bon
sujet,
moyen.
Quel sujet,
Éloi ? Disons que ça parle de comment la science s'est emparée de la notion de sauvage au 19e pour en faire un concept pseudo-scientifique.
Justifiant tout ce qui allait venir, la colonisation,
etc. Et...
C'est une forme d'engagement.
C'est tout à fait une forme d'engagement. Mais comme Révolution est une forme d'engagement, parce que je pense qu'on n'a pas vocation à juste retracer des événements vieux de 230 ans. Ça n'a pas vraiment de sens pour nous.
D'autant plus que pour vous, en tout cas, c'est comme ça que se termine La Liberté, le premier tome de cette trilogie. Pour vous, la Révolution, cette Révolution française est toujours en cours.
En tout cas, on a quelques années encore de travail devant nous.
Ouais. Mais la Révolution française, elle incarne, je trouve, un côté peut-être... Elle englobe un peu les autres, je trouve. Et puis
c'est la mère de toutes les révolutions.
Disons que je dirais pas que c'est, j'irais peut-être pas jusque là, mais elle les englobe, quoi. Disons, elle permet d'en parler, quoi. Elle permet de parler de toutes les révolutions, y compris, et elle n'est pas terminée dans le sens où elle était absolue. En fait, elle peut se terminer qu'avec la fin de l'histoire, donc on sait bien que ça n'arrivera pas, donc elle sera jamais terminée. Elle sera toujours d'actualité.
Et vous posez toujours la question, qu'est-ce que j'aurais fait à la place de ces gens-là, de ces protagonistes, si j'avais vécu cette période ?
Oh non, je crois pas.
Oh si. Bon, on se retrouve pour la suite de ce débat, à l'occasion de la sortie du tome 2. C'est prévu pour quand ?
C'est prévu pour d'ici 2-3 ans, quoi.
Parce que c'est très consistant, hein. C'est vraiment 376 pages le premier tome. Je suppose que le total fera plus de 1000 pages, hein, la trilogie.
Ben ouais, c'est ça. On n'a pas envie de se presser. Je pense que on sent l'accueil qu'on a. Enfin, je pense que ce qui plaît aussi dans cette bande dessinée, c'est le temps qu'on a mis, quoi. On a mis 5 ans sur le premier tome. On a reculé devant rien, quoi. Et c'est ça qui fait aussi que c'est si touffu et tout ça.
Et vous faites tout, dessin, scénario, couleur aussi.
Couleur ouais, aussi. Ouais, ouais.
Bravo. Bravo, Groisel Lecard, pour Révolution, le premier tome, Liberté, qui vient de sortir chez Actes Sud. Merci d'être passé.
Merci beaucoup.
We all wanna change the world.